Témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Salut tout le monde, bon matin. Alors, je vous nommerai pas tous les ministres, là, mais il y en a quatre qui vont faire une conférence de presse ce matin à 11h pour parler du retour au travail dans les bureaux et tout ça. On va en parler, nous autres, après la conférence de presse. C'était déjà un de nos sujets. Ensuite, c'est tombé très rapidement. Là, les recherches se poursuivent pour retrouver Martin Carpentier. On a eu des indications, semble-t-il. Notre journaliste Pascal Caron-Vézina est en route, donc on va lui reparler plus tard. Et en ce moment, on est avec Denis Couture de Cogeco Nouvelles, avec nous faire le point. Salut, Denis.
Salut, Dan. Des policiers qui ont été vus en déplacement rapide ce matin vers les 9h30, là, un petit peu avant, dans le secteur de Saint-Apollinaire, où les recherches se poursuivent pour retrouver Martin Carpentier. Et là, le parc des chutes de la Chaudière à Lévis a été évacué en partie de ses visiteurs. Un important déploiement policier s'y est installé. Pour comprendre un peu le territoire là-bas, Saint-Apollinaire, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du parc des chutes de la Chaudière. Et le parc des chutes de la Chaudière, c'est l'endroit où il y a eu ce mémorial improvisé pour les petites filles qui a été installé. Alors, on parle d'une vingtaine de kilomètres de là, un déplacement rapide de policiers. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'on a eu un appel pour un individu suspect? Je dois vous dire que les gens de la Sûreté du Québec, ils ont vraiment changé leur stratégie de communication. On est très avare de commentaires. Ce matin, après ce déplacement-là, j'ai appelé les gens de la Sûreté du Québec qui m'ont dit tout simplement qu'il y a des vérifications qui sont en train de se faire, sans plus. Parce que la SQ a annoncé hier soir avoir modifié sa stratégie dans le cadre des recherches pour retrouver le suspect. La stratégie de communication qui a changé, visiblement. Et on est dans une situation en développement aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à ce septième jour de recherche. Ça fait une semaine aujourd'hui là, que cette histoire a commencé avec l'accident mystérieux à Saint-Apollinaire sur l'autoroute 20.
Oui, alors bon, un changement d'approche dans les recherches, c'est bien. Un changement de communication, c'est un peu plate, par exemple, mais bon, écoute, on va s'en
sortir. Il y a de la stratégie là-dedans. Hein?
Mais, oui, c'est clair. Mais aussi, à un moment donné, la SQ, plus le temps passe, plus ils vont se faire blâmer. Puis je veux dire, c'est pas, on ne sait pas si c'est de leur faute là, pour l'instant. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent, puis ils travaillent très fort.
On voit bien sur le terrain, oui.
OK. Bien, écoute, merci beaucoup, Denis. Tu nous tiens au courant. Puis,
bien sûr.
On va rester proche de la situation. Merci beaucoup. On va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on fait assez vraiment pour contrer la violence faite aux femmes au Québec? Parce que là, les féminicides ont encore augmenté cette année. Je me demande littéralement si on fait quelque chose. Là, j'ai beaucoup de misère à comprendre, mais on va recevoir Marie-Claude Girard, qui est, un instant, membre de PDF. Voilà, je cherchais, j'avais peur de dire les mauvaises lettres. PDF Québec, et qui est avec nous au bout du téléphone. Bonjour, Mme Girard.
Bonjour, M. Bigard.
Alors, c'est inquiétant parce que ça date pas d'hier qu'on en parle, là. Les féminicides, les crimes contre les femmes, les homicides contre les femmes, la violence faite aux femmes autochtones, à toutes les femmes, ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que vous croyez qu'on a les bonnes mesures? Est-ce que vous croyez qu'on est en chemin? Qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. On a souvent associé ça à des crimes conjugaux. On a souvent diminué l'impact et essayé de dire que c'était des cas spécifiques. Alors non, on n'en fait pas assez. Ce qui nous manque, ce qu'on croit qu'on manque, et tout comme les Nations Unies demandent à tous les pays, c'est vraiment de reconnaître qu'est-ce qu'un féminicide. Ce n'est pas un homicide. C'est différent de ce que... Il y a plusieurs hommes qui se font tuer dans la société, mais ça origine surtout des crimes organisés. Les femmes, quand elles sont tuées, c'est majoritairement par des proches, parce qu'elles sont femmes, dans leur maison, avec leur conjoint, des proches de la famille, et puis il faut documenter le fait pour pouvoir trouver les façons de prévenir et contrer cette violence ultime contre les femmes.
Je rappelle quand même que les femmes ne sont dans nos lois des sujets de droit. Seulement que depuis 1969, ça fait 50 ans seulement. Moi, je me rappelle, ma mère, mon père s'appelait Julien Bigra, ma mère s'appelait pas Mireille Lafortune, elle s'appelait Madame Julien Bigra. Et elle devait demander la permission à mon père pour avoir un compte en banque. C'était quand même quelque chose.
Tout à fait, tout à fait.
Moi, je me rappelle ma mère en parler, puis t'avais la fumée qui sortait des oreilles, là. Elle c'était...
Ma mère aussi s'appelle Madame Claude Girard.
Oui, ma mère était, était féministe. C'était, je veux dire, c'est très humiliant de même pas avoir son propre nom et de ne pas être considéré dans les livres de loi. C'est 50 ans, c'est pas des siècles, là.
Non, c'est vrai que ça évolue très lentement. Tranquillement, on se fait reconnaître. Les femmes se font reconnaître, en tant, comme vous dites, en tant que sujet de droit. Et maintenant, il faut aussi se faire reconnaître les spécificités dans lesquelles elles se font tuer dans notre société. C'est pas rien, hein? Au Québec, c'est à peu près une femme par mois, en moyenne, une femme par mois qui se fait tuer parce qu'elle est femme. Il est temps qu'on... au Canada, c'est une à tous les 2,3 jours à peu près. Il est vraiment temps qu'on s'attarde.
C'est complètement fou. C'est vraiment un phénomène. Puis c'est parce qu'on ne le prend pas séparément. On le met dans le cas avec tous les autres homicides, alors qu'il y a d'autres causes. S'ils sont tués par des proches, beaucoup plus. On parle de la moitié du temps, là, un peu plus. C'est parce que c'est des crimes. Comment on appelait ça? C'était quoi le terme qui me faisait vomir un peu? Excusez, des termes. Des crimes passionnels. Comme quoi, quand t'es passionné, t'as le droit de tuer. C'est ce que ça sous-entend.
C'était
une excuse. Voilà.
C'était une excuse. Mais maintenant, ce qu'on demande aussi, ce que PDF pour les droits des femmes demande aussi, c'est que le mot féminicide soit reconnu dans nos lois. Qu'on voit la distinction entre un homicide plus traditionnel versus la raison pour laquelle les femmes se font tuer de façon générale. Parce que quand on va pouvoir nommer la chose, comme vous dites tantôt, un crime passionnel, on nommait pas les choses. Quand on va pouvoir commencer à nommer les choses, que le mot féminicide soit inclus dans le code criminel, dans nos lois, là, on va pouvoir commencer à mieux comprendre et à développer des outils pour mieux les prévenir et les guérir. Alors, la première étape, c'est de reconnaître que c'est un
la première
féminicide.
Étape, c'est toujours de nommer quelque chose pour le commencer, mais pas juste le nommer dans les airs, que ce soit dans nos livres de loi, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous croyez, Mme Girard, qu'il y en a eu plus pendant la COVID du fait peut-être que les femmes étaient peut-être prises des conjoints violents en télétravail chez elles?
Ouais. C'est ce que les premiers résultats de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, qui est un observatoire de l'Université Guelph. Les premiers chiffres, parce qu'ils viennent de publier leurs résultats de mi-année. Et d'après leurs résultats de mi-année, les féminicides auraient augmenté d'à peu près 15 % depuis le début de l'année.
Oui, j'ai dit 136 femmes et filles ont été tuées en 2019. C'est énorme.
C'est énorme, hein?
C'est même inconcevable. Il faut y penser de plus proche, je crois. Légalement, il faut reconnaître le terme féminicide, mais chaque personne qui écoute aujourd'hui, pensez à vos femmes, vos filles, pensez à comment ça se fait qu'elles sont plus en danger à la maison que les hommes. C'est pas très acceptable. Alors pour
c'est
ça,
fou, hein?
Il
pensez
faut...
que 53 % de ces femmes-là ont été tuées chez elles.
Oui. Alors donc, ça prend beaucoup d'éducation, puis ça va prendre de la répression au bout, comme n'importe quel crime, mais ça va falloir comprendre, qu'on comprenne précisément qu'est-ce qui est un féminicide. Souvent, c'est lié à autre chose aussi. Les membres des Premières Nations, femmes, se sont fait tuer d'une façon complètement disproportionnée aussi. On n'a pas encore pincé les gens quelquefois, c'est le conjoint, mais souvent c'était sur la route, elles disparaissent simplement, puis on ne les retrouve plus.
Tout à fait, parce que même si la majorité des féminicides, c'est les femmes sont tuées dans le cadre de la violence conjugale, une très grande proportion des féminicides sont liés à des traites de personnes, aux crimes organisés ou aux meurtres de femmes et filles autochtones. C'est tout l'autre groupe qui sont majoritaires. Il y a eu des commissions. La commission vient pour sur oui. Puis l'autre commission là, sur la commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues oui. ou assassinées, qui ont identifié des pistes de solutions. Les pistes de solutions pour diminuer ces crimes-là ont été identifiées, mais les gouvernements ne les ont pas encore mis en place. Alors, on a des façons de procéder. Il est urgent d'agir. Les femmes continuent à mourir des mains d'un homme parce qu'elles sont femmes. Parce qu'on voulait abuser d'elles, parce qu'on voulait avoir un super contrôle sur elles. C'est pas tous les hommes, là, hein? Mais ceux qui le font, ils font du mal à plusieurs femmes.
Oui, et il y a des hommes qui pensent encore qu'ils ont le droit parce que... Alors, c'est toujours des hommes très souffrants, il faut quand même le dire. Ça oui. fait partie du décor. Mais au lieu d'aller chercher de l'aide pour eux, ils sont incapables de perdre le contrôle, par exemple, de la personne aimée si la personne s'en va. Alors qu'en amour, la première chose qu'il faut apprendre, c'est que même quand on est en amour, on se fait laisser, c'est la vie, ça. Il faut vivre oui. avec. Mais il y en a qui ne sont simplement pas capables d'abandonner un contrôle. Ils n'y arrivent pas, quitte à se transformer en meurtrier.
Tout à fait. La partie du contrôle, la chose qui nous appartient, le contrôle, c'est vraiment le...
C'est le contrôle.
C'est le contrôle, oui. Ça prend de l'éducation, ça prend de l'aide. Ça prend de l'aide pour aider les femmes qui essaient de s'en sortir. Ça prend de l'aide pour les hommes qui essaient de s'en sortir. Puis ça prend de l'éducation, ça prend des ressources, une sensibilisation.
Quelles sont vos pistes? On mettrait l'argent où? Dans quoi?
Mais si je regarde les recommandations ou les appels à l'action des commissions vient, puis une enquête sur les filles et les femmes disparues autochtones, oui. C'est de la sensibilisation dans l'intérieur de la communauté, mais aussi le financement de réseaux de maisons d'hébergement pour les femmes battues et autochtones. Oui. Ça, c'est la première ressource, il faut les protéger. Il faut aussi sensibiliser. Dans le fond, ça, c'est prévenir et contrer. Alors, la sensibilisation au départ, offrir de l'aide à tout le monde, et puis offrir des solutions immédiates. Il faut qu'il y ait des maisons d'hébergement. Il faut qu'il y ait de la place dans ces maisons d'hébergement pour comprendre, pour protéger ces femmes-là. Parce que c'est vraiment une protection quand votre vie est menacée dans une maison, quand vous restez parce que vous avez peur que vos enfants se fassent aussi, subissent cette violence-là aussi.
Ben oui, là, on en parle aujourd'hui, même, on vient juste là.
Oui, tout à fait. C'est complètement horrible.
C'est une horreur, ça. Je comprends la souffrance, mais c'est quand même grave qu'il y ait autant d'hommes qui pensent que la violence peut être une solution à ce moment-là.
Tout à fait. Puis souvent, on va falloir avoir pour les carpentiers, il va falloir avoir le résultat de l'enquête pour vraiment comprendre, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Oui, ça va prendre un certain temps quand même, là.
Oui, mais habituellement, lorsque les pères tuent leurs enfants, c'est souvent dans le contexte d'antécédents de violence familiale et de représailles contre leur conjointe.
Alors que quand on parle du cas des femmes qui tuent leurs enfants, ce qui est beaucoup plus rare d'ailleurs, on parle plutôt de suicide élargi. C'est-à-dire, je souffre trop, mais je laisse pas mes enfants ici, ils vont souffrir encore plus que moi.
Oui, oui.
Ce qui est une erreur aussi, là, je ne blanchis pas l'un contre l'autre.
Non,
là,
vous avez raison de dire que des femmes aussi, quand on parle de féminicide, c'est comme...
Ça existe, mais il y en a beaucoup moins. Il faut juste se replacer les choses dans le contexte. Là.
Exact.
Fait que donc, il y a vraiment un phénomène d'hommes violents qui vont jusqu'au meurtre avec leur conjointe. Et il y en a beaucoup, et c'est en augmentation.
Et cette augmentation, c'est ce qui... fait le plus peur, à mon avis. Est-ce que c'est les mesures de confinement et le télétravail ont accéléré? C'est possible parce que tous les réseaux d'hébergement, plusieurs groupes de femmes ont prévenu au début du confinement, c'était la chose à faire, le confinement, mais que ça risquait d'avoir des impacts sur les femmes qui vivent dans des situations de violence. Il y a de l'argent supplémentaire qui a été donné, mais c'est probablement pas suffisant. Je blâme pas le gouvernement, là, parce qu'il fallait agir pendant la pandémie.
On essaye de mettre en place des solutions. Des fois, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je cherche pas la tête de personne aujourd'hui. Je cherche à trouver des idées pour que ça aille mieux. On comprend que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On comprend aussi que les organismes qui aident les femmes sont la plupart du temps des organismes à but non lucratif.
Tout à fait.
Des organismes communautaires qui sont, je m'excuse, là, je sais de quoi je parle ici, ultra sous-financés. Oui. Qui ont besoin de se créer des événements pour se financer, pour d'avoir recours à la charité, alors que c'est des financements récurrents qui devraient être garantis, comme dans le cas de l'école, ou je sais pas. Parce que je parle d'argent parce que c'est pas anodin. L'argent, c'est un instrument de pouvoir aussi. Et je me souviens quand j'étais jeune, puis que les femmes commençaient à se tanner, puis à se dire, ben moi, je mérite le même salaire que mon mari si je fais la même job. Puis les hommes étaient contre. Puis on comprend tout maintenant que c'est parce qu'ils avaient peur, eux, d'être obligés de se faire diminuer leur salaire pour qu'on en dose plus aux femmes. Ce qui est vrai. Ça s'appelle un rétablissement, ça s'appelle une égalisation des revenus dans la justice. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a encore une question d'argent?
Oui, et c'est aussi une peur de perdre son statut. qu'on est seul pourvoyeur, on a le contrôle sur sa famille.
Ah oui.
Et quand le salaire est partagé ou la femme fait plus qu'un salaire, plus que l'homme, il y a une perte de contrôle. Elle peut décider par elle-même. Il n'y a plus besoin de donner la permission ou de discuter des dépenses. Moins besoin de discuter des dépenses. Parce qu'un couple fonctionne en partenariat, il devrait tout discuter. Mais il y a quand même une perte de contrôle quand les deux deviennent des personnes autonomes, adultes et autonomes, respectées et autonomes.
Vous venez de nommer quelque chose de très, 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 très gros avec contrôle et prise de contrôle. Il y en a qui veulent se faire rassurer en amour. C'est évident qu'en amour, c'est là où on peut se faire blesser le plus, parce que si c'est quelqu'un avec qui, je sais pas, on a une aventure, mais on n'est pas si amoureux, bon, elle s'en va, on est triste, c'est la vie, ça aurait pu aller plus loin, on s'en remet. Mais quand c'est l'amour de notre vie qui s'en va, là, il y a une perte de contrôle, puis il y a certains hommes qui n'arrivent pas à assumer que ce contrôle-là soit réparti des deux côtés. Il y a des gens qui exigent, et là, je nomme un peu tout le monde, ben, pour tout le monde, mais beaucoup de monde, qui croient que parce qu'on est en amour, ça nous donne un contrôle sur l'autre. Mais là, ça veut dire que si on est insécure, c'est quoi? On commence à faire suivre notre conjointe, ça donne des relations ridicules. Donc, on voit bien qu'en amour, il n'y a pas de contrôle. C'est une complicité non. ou rien.
C'est ça.
Il faut admettre ça. Le mot respect. Contrôle, voilà, le contrôle est la grosse maladie de oui. l'amour, je crois.
Oui, oui. Puis c'est tellement plus agréable d'avoir une relation équilibrée, respectueuse, où on est fier pour l'autre, où les deux évoluent.
Oui.
C'est tellement plus satisfaisant à tous les niveaux
oui,
que
c'est...
de chercher à contrôler l'autre, ça ne marche pas.
Ben, c'est parce que quand on fait ça comme il faut, il y a une complicité qui s'installe entre deux
oui.
personnes qui s'aiment, alors que
oui.
par le contrôle, ça tue la complicité.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Madame Girard, Marie-Claude Girard, qui est membre du groupe pour les droits des femmes du Québec. Passez une belle journée, madame.
Pareillement, ça m'a fait plaisir.
Alors moi, je relance quand même les lignes avant la pause. Là. Vous pouvez m'appeler pour discuter au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850. Est-ce qu'on en fait assez pour contrer la violence faite aux femmes? Alors, j'attends votre appel après la pause.